Actu SF, les podcasts.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette table ronde intitulée « Des hommes mauvais dans le futur aussi ». Alors, je dois dire que je suis personnellement un peu embarrassé par ce titre, par le titre de cette table ronde, qui est un peu réducteur, parce que les auteurs ici présents sont plus riches d'imaginaire et ne peuvent être réduits à cette simple phrase, à ce simple titre. Alors, je pense qu'on va élargir le débat et qu'on va mieux faire connaissance avec la créativité des auteurs ici présents. Alors, je vous présente tout d'abord Béatrice Bottet, qui se trouve
bonjour.
Ici. Manon Fargeton, voilà. Victor Dixon tout au bout et Loïc Henry à mes côtés. J'ai envie de commencer par poser une question à Béatrice Bottet. Béatrice Bottet, vous écrivez surtout pour la jeunesse, de la littérature pour la jeunesse. Vous êtes spécialiste de la mythologie grecque.
Le hasard me fait travailler beaucoup sur ces sujets, mais spécialiste,
Vous connaissez bien. En fait, vous explorez plutôt le passé dans des romans où vous utilisez une trame historique. Alors ma question est la suivante. Je n'existe plus ici. C'est un roman de science-fiction. Alors pourquoi allez-vous tout d'un coup dans le futur au lieu de continuer à explorer le passé?
Eh bien, je crois que c'est mon imaginaire a travaillé autant dans le passé que dans le futur, je crois. Mais on trouvait à une époque plus lointaine peu d'éditeurs intéressés par ces sujets-là. Ça revient maintenant, hein, mais pendant très longtemps, on dit, la science-fiction, c'est fini. La grande époque, oui, mais non, mais ça n'intéresse plus personne. Je trouve que c'était dommage. Bon, certains éditeurs m'ont dit, oui, mais faut être prêt, faut avoir un truc sur le gaz parce que ça reviendra. Et en effet, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a des modes, la mode du fantastique a un peu affadi le désir d'auteur de travailler sur un futur complètement imaginaire et non fantastique, un futur qui pouvait être aussi réaliste que l'imagination des uns et des autres leur permettait, quoi. Donc, c'est pas nouveau pour moi, c'est nouveau pour mes lecteurs, ça c'est sûr. Bien que j'ai fait deux autres science-fiction dans le passé. Et voilà.
Dans le passé.
Dans mon passé à moi.
Okay.
Dans mon passé personnel.
Merci. Manon Fargeton, vous avez une bibliographie impressionnante. Vous avez été maintes fois primé et vous écrivez aussi pour la jeunesse en grande partie. Et voilà, qu'il ne reste plus que 10 jours avant la fin du monde. Alors, parlez-nous un peu de ce roman de science-fiction.
Alors, est-ce que c'est de la science-fiction? Moi, je dois quand même vous avouer dès le départ que je ne sais pas trop ce que je fais dans cette table ronde sous ce titre-là. Je suis peut-être pas la seule, parce que je me reconnais pas dans ce titre du tout et je reconnais pas les romans que j'ai écrits dans ce titre-là non plus. Mais bon, je suis là. 10 jours avant la fin du monde, c'est... Ça se passe vraiment à notre époque, en plus, ça se passe pas dans le futur. D'un coup, il y a une ligne d'explosion qui apparaît, qui va du pôle nord au pôle sud, en passant par la Nouvelle-Zélande. Cette ligne se scinde en deux. Et ces deux lignes vont grignoter peu à peu la Terre, mètre après mètre, sans qu'on sache quelles sont les origines de ces explosions. Et donc des scientifiques font des calculs, effectivement, tout de suite, et disent « bon bah si les lignes d'explosion continuent à la même vitesse, les deux lignes vont se rejoindre de l'autre côté du globe, par une ligne qui passe donc par un bout de l'Angleterre, la Bretagne et un bout de l'Afrique. » Et c'est bien pratique, je suis bretonne. C'était un peu voulu. Et donc, elles vont se rejoindre là dans 10 jours, si tout se poursuit à la même vitesse. Et donc, le monde entier se rue sur cette dernière frontière des survivants en espérant que quelqu'un trouve un moyen d'arrêter les explosions. Et mes personnages, moi, sont en France et vont eux aussi partir vers cette dernière frontière pour chacun des raisons différentes. Se rencontrer pour ceux qui ne se connaissent pas et vivre ensemble leurs 10 jours avant la fin du monde. Voilà de quoi ça parle.
Merci. Victor Dixon, cogito ou cogito, je ne sais jamais comment on dit.
Voilà, je crois que les deux prononciations sont acceptées. Ouais. Donc,
ouais. Tant mieux. Votre dernier roman, qui sort en pré-lancement exclusif ici aux Imaginales, est décrit comme un techno-thriller montrant un futur qui pourrait être le nôtre. Oh, c'est une façon de parler de science-fiction. Enfin, bon, je vais essayer de rejoindre le titre. Là. Dans ce futur, les hommes, y sont-ils mauvais ?
Là, c'est une grande question, en fait. Est-ce que la technologie, parce qu'il est question de technologie quand on parle du futur, est-ce qu'elle corrompt les hommes ? Est-ce qu'elle révèle leurs mauvais aspects ou pas ? On a peut-être en tête le mythe du bon sauvage hein, de Rousseau. C'est quelque chose qui prétendrait que la technologie, justement, pervertit les hommes ou les corrompt. Et c'est au centre de l'histoire que j'ai voulu raconter dans Cogito. Hein. En deux mots, on se situe dans un futur assez proche, c'est de l'anticipation. Et l'intelligence artificielle a envahi toutes les strates de la société. Pour moi, il y a deux grands sujets du 21e siècle. D'une part, l'écologie, dont le public là, s'est vraiment emparé. Ces dernières années, on a vu les marches pour le climat, la jeune génération s'y met aussi, les lycéens. Et il y a une autre évolution, en fait, qui est plus souterraine, pour l'instant, dont on n'a pas vraiment conscience, mais qui aura des conséquences aussi importantes, à mon avis, c'est l'intelligence artificielle, qui va changer tous les aspects de notre société, à commencer par le travail. Hein. Un nombre incalculable d'emplois vont être automatisés, ça a déjà commencé, et aucun emploi ne sera à l'abri de cette vague de l'intelligence artificielle. Le futur dans lequel je me situe, on a à peu près 80% des emplois qui ont disparu. Mon héroïne, Roxane, est une jeune femme qui est à quelques mois de passer le bac qui n'est plus le baccalauréat, mais qui est devenu le brevet d'accès aux corporations, car l'éducation a été privatisée, et les entreprises, finalement, font leur marché parmi les lycéens, et vont sélectionner les quelques-uns qui auront la chance de rejoindre des campus de corporation pour ensuite intégrer ces entreprises du futur. Elle a vraiment lâché l'affaire, pour ainsi dire. Elle pense qu'elle n'a pas d'avenir. Elle est même tombée dans la délinquance. Et au dernier moment, elle va recevoir une lettre l'invitant à un stage science infuse, un stage de programmation neuronale qui prétend utiliser l'intelligence artificielle pour infuser des connaissances dans l'esprit humain. Et lui permettre ainsi, en une semaine de vacances dans une île tropicale paradisiaque, d'intégrer tout le programme du bac et d'avoir une chance de décrocher cet examen. Elle va signer et elle va se retrouver dans cette île. Elle va être confrontée de plein fouet à la technologie avec d'autres stagiaires. Et là, je vais creuser ces questions, justement, de la manière dont la technologie nous influence, peut même nous transformer. On rejoint les thèmes du transhumanisme hein, qui viennent un peu en filigrane derrière la question de l'intelligence artificielle. Voilà, et la question va se poser, est-ce que cette technologie qui prétend nous améliorer notre esprit, est-ce qu'elle nous rend meilleur, est-ce qu'elle nous rend plus mauvais, ou est-ce que c'est quelque part entre les deux? C'est une des questions que je pose dans ce roman.
Merci. Loïc Henry, dans les océans stellaires, il semblerait que l'usage de la force pour soumettre une planète soit souvent utilisé. Doit-on pour autant considérer que ce sont des hommes mauvais qui agissent ainsi? Est-ce qu'ils ont des raisons de le faire?
Alors, en deux mots, pour vous présenter le pitch, ce qui est pour le, à l'inverse de Manon, qui est lié au thème, là, sur ce, pour le coup. C'est un space opéra, donc ça se passe dans un avenir très lointain. Le principe, c'est que les planètes ont été colonisées via les abysses, c'est-à-dire que dans les abysses se trouvent... alors, sur Terre, on a trouvé un premier seuil, qui a été une porte d'entrée vers les abysses d'une autre planète, cette même planète contenant elle aussi des seuils qui menaient vers d'autres planètes et ainsi de suite. Et finalement, la colonisation spatiale s'est déroulée via les abysses, d'où le nom les océans stellaires. Et un des personnages, donc c'est une jeune femme de vingtaine d'années, on va dire, a pour rôle d'être Explo. Donc Explo sont des mercenaires qui recherchent des seuils dans ces différentes planètes et qui trouvent donc de nouvelles planètes qu'ils revendent et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la colonisation se fait, c'est ainsi que de nouveaux mondes sont découverts, de nouvelles richesses, et ainsi de suite. Et là, elle va trouver une nouvelle planète, et pour la première fois, on va découvrir des espèces qui sont des espèces que j'appelle sentientes, donc intelligentes, mais qui ne sont pas humaines. Et c'est la première fois dans la colonisation spatiale, via les océans, qu'on trouve des espèces intelligentes non humaines. Et là se pose la question, c'est-à-dire que à la fois on a l'excitation de trouver ces espèces, à la fois on a envie que ça se passe bien, mais on a aussi la peur d'être dominé. Et je me suis demandé quelle serait la réaction de l'homme au sens l'humanité, si elle était confrontée à une autre espèce intelligente. Est-ce qu'il aurait plutôt une réaction bienveillante ou est-ce qu'il aurait plutôt une réaction d'agressivité ? Bon, sans vous dévoiler, vous spoiler tout le truc, je ne suis pas très très optimiste en absolu. Et ça, c'est un roman qui fonctionne en mode puzzle, qui s'assemble au fil de l'histoire et qui se dirige sur OK, qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle découverte, mais tout en ayant un miroir sur comment s'est passée l'expansion spatiale et même comment s'est passé le fait que l'Homo sapiens domine finalement sa propre planète d'origine, la Terre. Notamment, on peut se poser la question de se demander pourquoi l'homme de Néandertal, par exemple, ou l'homme de Flores en Indonésie, sont deux espèces homo qui ont disparu par hasard à peu près au même moment où l'Homo sapiens a colonisé leur territoire. Bon, après, on peut considérer qu'il y a plein de théories qui existent. On peut considérer que c'est une coïncidence, on peut considérer que c'est à cause de l'Homo sapiens, mais d'une manière passive, parce qu'il occupait les meilleurs terrains, et on peut aussi considérer que c'est à cause de l'Homo sapiens d'une manière active. Enfin, toujours est-il que voilà, c'est-à-dire que l'homme à ce moment-là est confronté à une attitude, à un choix devant une espèce intelligente, avec finalement la peur aussi qui vient. Et comme on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, et quand les hommes sont confrontés les uns aux autres, quand la peur est présente, le résultat n'est jamais très 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 encourageant.
Merci. D'après ce que vous nous dites, donc, j'ai l'impression que l'avenir que vous présentez dans ces différents ouvrages est plutôt sombre qu'optimiste. Est-ce que vous voyez l'avenir comment, de manière optimiste ou pessimiste ? Est-ce que vous pourriez écrire une utopie, par exemple ?
En ce qui me concerne, le monde que j'ai imaginé dans « Je n'existe plus » est totalement... bienveillant, positif. Et quand j'ai vu que j'étais invitée à une table ronde sur le thème du méchant dans la science-fiction, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire ? Il n'y a pas de méchant dans mon roman. Il n'y en a pas, mais du tout. C'est une aventure individuelle, l'aventure d'une fille du futur qui est entrepreneuse. Elle est en société avec un de ses amis. Et ils sont explorateurs de l'espace-temps, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous rapporter de n'importe quel temps du passé, de n'importe quelle planète colonisée, tout objet qui vous manque, tout document, toute relation, enfin bref, ils peuvent tout vous rapporter du moment que ça existait à un moment quelconque dans l'espace ou dans le temps. Bon, voilà, ils ont une petite affaire qui tourne. Et les seuls méchants qu'il peut y avoir dans cette histoire sont ceux de, comment je dirais, d'une humanité assez basique, comme nous maintenant. Vous avez quelqu'un que vous avez dans le nez, vous allez essayer de lui flanquer une peau de banane sous les pieds, mais ça reste pas des ennemis, c'est pas des gens manipulateurs, c'est pas des tyrans, c'est pas des gens qui veulent mettre le feu au reste du monde ou coloniser d'une façon brutale ou être horrible, quoi. Je considère dans mes romans en général que l'humanité va vers un mieux. Je sais, je suis naïve et candide d'être trop optimiste peut-être, mais je pense pas. Je veux espérer que l'être humain est assez raisonnable pour aller vers une amélioration permanente de ses capacités, en tout cas, qu'elles soient techniques d'une part, mais aussi de son humanité propre. Alors bon, vous avez quelques méchants classiques, jaloux en général, bêtes la plupart du temps, c'est par bêtise qu'ils sont méchants. Mais bon, la civilisation dans laquelle j'imagine, je lance mes héros, est une civilisation qui a colonisé une partie de l'univers en toute paix, disons, et qui vit assez sereinement. Donc, en tout cas, c'est un avenir que je souhaite à l'humanité. Quelque chose de serein, de curieux des autres mondes, curieux de planètes différentes, de civilisations différentes, mais pas animé ni par la hargne, ni par la jalousie, ni par la concupiscence ou le désir de mettre la main sur des richesses qui ne sont pas les siennes, comme c'était le cas de la colonisation ordinaire, on va dire, au XIXe siècle, par exemple. Non, non, mes héros sont plus positifs que ça. Ils ont des ennuis. Quand c'est des ennuis, c'est des ennuis individuels. Armance, l'héroïne, perd sa substance, on ne la reconnaît pas, on ne la voit pas, c'est comme si elle était totalement... Elle existe pourtant, elle existe vraiment, mais les gens ne tiennent pas compte d'elle, elle n'arrive pas à s'imposer dans une conversation, elle perd l'intérêt qu'elle a pour autrui, elle qui est plutôt une fille qui a du bagout, du caractère et tout ça, et elle est désarçonnée de cela, comment va-t-elle retrouver l'attention d'autrui, quoi ? Puis c'est pas facile, donc elle est obligée de partir dans le passé pour arranger le problème. En gros, voilà l'histoire. Mais il n'y a pas de méchant dans mon histoire, et je n'imagine pas des fins du monde ou des apocalypses. Je vois que beaucoup de... dans une époque, la nôtre, qui est peut-être plus pessimiste que je ne le suis, c'est le point de départ de beaucoup de romans, mais c'est pas le mien, non. Donc je vois l'avenir avec bonne humeur et sérénité. Voilà.
J'aimerais poser la question à Victor. Est-ce que la technologie est méchante ?
Ça, c'est aussi une question. Est-ce que la technologie en elle-même est bonne ou mauvaise ? Ça a beaucoup fait gloser. J'ai pas la réponse, en fait. J'ai essayé de l'explorer déjà dans Phobos, ma série précédente, notamment tout ce qui est ce monde d'écran, ce monde d'image qu'on a construit autour de nous à travers les réseaux sociaux. Et c'est un très bon exemple, je pense qu'on peut expérimenter tous les jours. Ça nous permet d'entrer en contact avec des gens à l'autre bout de la planète, d'avoir des mouvements sociaux qui se créent comme ça spontanément, des mouvements culturels. Donc ça, c'est une formidable richesse. Et en même temps, on a l'impression que c'est un déversoir de toute la hargne, tous les trolls, la partie la plus sombre de l'humanité. Donc cette technologie d'Internet et des réseaux sociaux, elle permet le pire comme le meilleur. Est-ce qu'il faut la condamner unilatéralement ou pas ? C'est difficile de s'emparer de ce sujet, mais ce qu'il faut, c'est avoir, à mon avis, une attitude active par rapport à ça, par rapport à la technologie, et pas la subir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans Cogito avec l'intelligence artificielle, cette fois-ci. Pour revenir à la question que vous posiez, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste sur l'avenir ? Ça démarre un peu comme une utopie, le monde que je décris, qui aura peut-être lieu dans 30, 40 ans, où justement l'intelligence artificielle est en passe de résoudre les problèmes de réchauffement climatique. On a eu des formidables avancées médicales, économiques, d'agriculture. Et en parallèle, on a ces problèmes sociaux qui ont surgi avec justement la disparition du travail, ces emplois qui sont tous automatisés. Or, le travail, c'est tellement constitutif de notre culture, de notre civilisation. C'est d'une part ce qui permet la répartition des richesses à travers le salaire, mais de manière plus profonde encore, c'est ce qui nous permet de définir notre utilité dans la société. Si demain les robots prennent nos emplois, en quoi on contribue encore à la société ? Quelle est la définition de soi, de sa valeur ? C'est des questions vraiment profondes qui vont se poser à mes personnages, et à mon héroïne Roxane en particulier. Donc est-ce qu'il faut condamner l'intelligence artificielle ou l'épouser complètement ? La réponse est sans doute entre les deux, et en tout cas, ça doit faire l'objet d'un débat qui aujourd'hui n'existe pas suffisamment, je pense. Et il faut qu'on s'en empare, il faut que ça devienne vraiment sujet de discussion pour avoir cette attitude justement active par rapport à la technologie et ne pas la subir passivement, parce que c'est la voie dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Et derrière l'intelligence artificielle, il y a tout ce qui est connexe, big data, dont on commence à parler de plus en plus, hein, toutes ces données personnelles, cet énorme gisement de données sur nous, qu'on donne même à notre insu sur Internet, et qui demain seront utilisées par des intelligences artificielles pour nous profiler, pour des raisons commerciales, marketing, peut-être politiques aussi. Donc ça, c'est des sujets qui, à mon avis, sont trop absents du débat politique. Et la fiction peut aider justement à les mettre plus sur le devant de la scène. À mon échelle modeste, c'est ce que j'essaye de faire dans Cogito.
Si je reviens juste dans Phobos, puisque vous avez cité Phobos, dans Phobos, il y a une vraie méchante quand même, au début.
Oui, mais c'était les hommes mauvais, c'est pas les femmes mauvaises.
Oui, c'est vrai.
Oui, alors c'est vrai que dans Phobos, on a, alors pour résumer, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est la conquête martienne. On envoie les premiers humains pour coloniser la planète Mars, et pour financer cette mission, on organise un énorme jeu de télé-réalité. Donc le voyage va être filmé 24 heures sur 24, les 5 mois jusqu'à Mars, et ensuite la vie des colons sur la planète Mars. Ce que les passagers, les spectateurs de ce spectacle ne savent pas, mais que le lecteur apprend dès les premières pages du roman, c'est qu'en fait, la base martienne n'est pas viable et que les astronautes sont partis pour un voyage en aller simple qui sont condamnés à mort. Donc la production du show était au courant, et effectivement ma productrice exécutive, Serena McBee, est vraiment un personnage très machiavélique qui fait tout pour l'image, tout pour le profit, et on va le découvrir, tout pour le pouvoir. Elle brigue la présidence des États-Unis, et c'est un personnage qui ne recule devant rien pour utiliser justement la technologie et l'image en l'occurrence à son profit. Et pour moi c'était un personnage, c'était aussi une allégorie de ce système médiatique dans lequel on vit, qui est un peu impalpable. On subit ces réseaux sociaux, on subit ces écrans, sans réussir à mettre le doigt vraiment sur quelqu'un. Et le fait d'incarner tout ça dans un personnage, ça permettait tout d'un coup de rendre visible ce qui est un petit peu diffus dans la société.
Merci. Manon, dans votre récit, donc, il s'agit d'un phénomène, on va dire... naturel, physique.
Alors, si vous voulez lire le livre pour savoir ce que sont ces explosions, je ne vais pas être vendeuse là, mais ne le faites pas. Parce que vraiment, ce n'est pas le sujet du roman. J'ai voulu que ça ne soit pas le sujet du roman. Moi, le sujet du roman, c'est ce que mes personnages vont faire de ces 10 jours, des 10 jours qu'il leur reste. Et donc, j'ai choisi de ne pas mettre d'explication sur ce que sont ces explosions. Il y a des hypothèses, il y a plein d'hypothèses qui sont lancées. Mais j'ai choisi de ne pas donner la réponse parce que, pour moi, c'est comme quand on regarde un film d'horreur. Si on voit le monstre à l'écran, hyper bien, en haute définition, tout ça, bah on n'a plus peur. Alors que si on le voit passer au loin, c'est là qu'on flippe et qu'on sursaute. C'est un peu ce que j'ai voulu faire. Et puis j'avais pas envie de trancher sur c'est un phénomène climatique. Bon, on se doute qu'a priori pas quand même, parce que c'est très très rigoureux comme avancée. Mais voilà, j'avais pas envie de donner une réponse. J'avais envie que ça évoque plein de choses différentes de notre actualité. On parlait de la technologie, des phénomènes climatiques. À un moment donné, il y a une scène où il y a un corps qui s'échoue sur une plage. Bah voilà, ouais, quand on est 10 jours avant la fin du monde, d'un coup, on est tous des migrants. C'est marrant. Hein. J'avais envie de ces échos-là davantage que de donner une explication rationnelle à ce qui se passe.
D'accord. Mais dans ces personnages qui vont essayer de survivre en migrant, est-ce qu'ils sont tous gentils, ou est-ce qu'il y en a qui essayent d'utiliser les autres pour s'en sortir, enfin, vous voyez ?
Alors, je suis quand même plutôt du côté des gentils, si on veut le dire comme ça. En tout cas, de personnages qui vont se trouver les uns les autres et réussir à exister en tant qu'eux-mêmes par le regard des autres et par la relation qui va se nouer avec les autres. C'est rigolo parce que j'écoute depuis tout à l'heure vos images d'ombre et de lumière et de est-ce que l'avenir est sombre et tout. Mon autre métier, c'est régisseuse lumière pour le théâtre, donc ça me parle, quoi. et je sais très bien que dans ce métier-là, des fois on travaille une lumière sur la scène et puis on met plein de projecteurs, et des fois la lumière la plus belle, c'est quand on éteint tout et puis qu'on met un projecteur. Et que là, il y a tout qui se découpe et qu'il y a un élément qui apparaît. Il y a ce rayon qui apparaît sur scène avec souvent un peu de poussière dedans, parce que c'est un théâtre et qu'il y a de la poussière partout. Moi, je c'est ce que je fais quand j'écris. J'allume un projecteur.
Et si on revient aux océans stellaires, pardon, je monopolise le micro, je ne me rendais pas compte.
Non, c'est bon.
Si on revient aux océans stellaires, donc il y a ces découvertes de seuils au fond des abysses, il y a des rencontres avec des extraterrestres, d'autres civilisations. Est-ce qu'elles sont toutes animées de bonnes intentions et même chez les humains, il y a... Quelles sont finalement, sans révéler non plus le fond de l'histoire, mais quelles sont les motivations des personnages qui seraient peut-être pas très bonnes, enfin.
En fait, je me suis posé une question au moment où j'ai écrit Les océans stellaires, c'est sur Terre, vous avez une espèce dominante, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de concurrent, ni sur Terre, ni sur les océans, ni dans l'air. C'est-à-dire qu'il est dominant. Partout sur sa planète, et en plus il s'adapte partout, c'est-à-dire qu'en dehors vraiment des extrêmes de type pôle nord, pôle sud, sommet de l'Everest et au plus profond du désert, il est globalement partout. Et je me suis demandé, mais ok, mais imaginons qu'on soit sur une planète ou dans une société où finalement il y a plusieurs espèces dominantes. C'est-à-dire qu'on aurait par exemple une espèce dominante dans un milieu qui serait, je ne sais pas, une forêt ou ce que vous voulez, une espèce dominante dans les océans et une espèce dominante dans les montagnes, pour faire très très simple et très schématique. Il n'y a pas de raison naturelle qu'il n'y ait qu'une seule espèce dominante sur une planète. C'est-à-dire que si vous enlevez l'homme et que vous prenez un écosystème, il y a plusieurs espèces dominantes dans la majorité des écosystèmes. On peut imaginer qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des grands mammifères, et puis c'est la même chose dans les océans, c'est-à-dire qu'il y a des mammifères marins, il y a des requins, ainsi de suite. Mais ça, l'intérêt de ce choix, c'est de se dire, ok, l'homme, finalement, a construit son développement sur le fait qu'il était l'unique espèce dominante. C'est-à-dire que finalement, le seul compétiteur qu'il avait, c'était les autres hommes. C'était une autre tribu, un autre groupe, une autre nation, un autre pays. Donc son développement, en fait, s'est construit dans le conflit. C'est-à-dire qu'il a progressé en gagnant des terres ou en gagnant, je ne sais pas, des ressources naturelles sur un autre groupe. Mais maintenant, supposons que vous êtes sur une planète où il y ait 3, 4, 5 espèces dominantes et que ces espèces dominantes aient toutes, un avantage compétitif dans leur zone, mais par contre, perdent cet avantage quand ils vont dans la zone des autres. C'est-à-dire que imaginez par exemple que les requins ou les dauphins ou les orques ou je ne sais pas quoi soient plus intelligents qu'ils ne le sont et que finalement ils sont tellement intelligents que les hommes n'auraient pas pu s'aventurer sur les mers parce qu'ils auraient été confrontés à ces orques par exemple qui étaient suffisamment intelligents pour leur interdire l'accès à leur zone. Donc si vous êtes dans cette logique-là, on peut imaginer que le progrès ne vient qu'à partir du moment où ces espèces dominantes coopèrent entre elles. Parce que tant qu'elles ne coopèrent pas, elles sont bloquées dans leur propre zone. Donc si elles veulent se débloquer et si elles veulent progresser, ça passe mathématiquement, logiquement, par la coopération. Et ce que je présente dans les océans stellaires, c'est que toutes les planètes, sauf la Terre, justement, qui est un cas particulier, toutes les planètes ont plusieurs espèces dominantes. Donc toutes les planètes ont basé leur développement sur la coopération, sauf l'homme, qui lui a basé son développement non pas sur la coopération, mais sur la compétition et sur le combat. Alors, sans faire trop de spoilers, il y avait plusieurs espèces dominantes sur Terre, mais il se trouve que maintenant, il n'y en a plus qu'une dans l'histoire. Mais ça, je ne vais pas trop spoiler le roman non plus. Donc si on part de ce principe, finalement, vous avez des espèces intelligentes qui se rencontrent, avec d'une part des espèces qui ont basé leur développement sur la coopération, et d'autre part une espèce qui a basé son développement sur la compétition et sur l'agression. On peut supposer que l'espèce la mieux armée, en tout cas celle qui a le plus de chances de faire le premier pas vers l'agression, soit celle qui, naturellement, est basée justement son développement sur l'agression, ce qui est le cas de l'homme. Voilà, c'est le point de départ en fait de la rencontre entre ces espèces, mais pour le coup, c'est plutôt du côté des méchants, pour reprendre le point de Manon tout à l'heure.
On voit alors qu'on est dans des univers très différents, avec des auteurs qui dénoncent qui parlent de choses très différentes, donc le danger de la technologie, qui peut être un bien comme un mal, une catastrophe venue de nulle part qui peut nous transformer tous en migrants. C'est un peu différent
C'est la dépersonnalisation de certains personnages. Enfin, d'un en particulier, puisque c'est notre héroïne, quoi. Mm-hmm. Mais oui, elle va perdre sa personnalité et sa personne tout court. Il faut faire vite si elle veut... Si elle veut exister de nouveau, quoi.
Il faut la retrouver. Donc elle va...
Et puis elle ne connaît pas le mode d'emploi. Hein. Ça va être difficile. C'est beaucoup de tâtonnements pour elle et pour son associé.
C'est un roman assez drôle. Il y a de l'humour dedans. Moi, j'ai bien aimé. Et puis bon, alors en fait, on est dans un vers très différent. Il n'y a pas tellement d'hommes mauvais hein, par rapport. Et je suis un peu embarrassé pour vous poser encore des questions sur ce sujet. Donc, je vais peut-être demander au public, peut-être un peu tôt, mais enfin, est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à déjà ce que vous avez entendu sur ces différentes œuvres? Personne n'ose. Oui, une question, oui. Il n'y a pas de grands méchants, voilà.
Ça peut être, alors, comme de nos jours, hein, dans des aventures individuelles, le destin vous attend au coin d'un bois et puis vous arrive un accident biographique qui n'était pas prévisible et qui vous met dans l'embarras. Le destin de chacun, c'est pas forcément des grands destins universels ou nationaux, c'est pas forcément des guerres, c'est pas forcément des catastrophes écologiques, climatiques, etc., comme on le redoute tous à notre époque, là, maintenant. Ça peut être des accidents du destin individuel, tout simplement. Et le destin peut être bénéfique ou maléfique, on le voit pas venir, par définition. Hein, donc ça peut vous atteindre, vous, ici, tous nous, autant que nous sommes. Vous quittez cette salle, et puis... zut, un accident, vous cassez la jambe. Et puis zut, l'hôpital, pour telle ou telle raison, ne peut pas vous recevoir, ça prend du temps, vous allez perdre votre jambe, et puis tout votre destin va être changé pour une queue de cerise, quoi. C'est le risque, et c'est le risque de vivre. On peut pas... on ne va pas faire de philosophie, peut-être, mais... Bon, peut-être que c'est ma façon de... comment dire, le monde de mon imaginaire à moi décrit justement des destins individuels qui sont modifiés par des histoires individuelles qui sont modifiées par un coup imprévisible de leur destin. Donc il n'y a pas de méchant, forcément, c'est neutre, c'est ni bon ni mauvais, c'est imprévisible, c'est tout.
Mais après, c'est vrai que par rapport à votre question, qu'est-ce que c'est un homme méchant ? Enfin, moi, vraiment, quand j'ai lu l'intitulé, je me suis posé la question, c'est quoi un homme méchant ? Parce que la plupart des gens qui agissent, où on peut se dire, ah, lui, enfin, voilà, si on réfléchit dans le monde actuel, on en parlait entre nous, on disait, bah, par exemple, Trump, on pourrait se dire, c'est un méchant. Ok, la plupart des gens... c'est un idiot, mais voilà, mais c'est ça. C'est quoi un homme méchant ? Est-ce qu'il fait le mal entre guillemets par parce qu'il est idiot, ou est-ce qu'il fait ça par dessein ? Et est-ce que il est méchant d'une certaine manière parce que ses actions font du mal à plein de gens, mais peut-être qu'il est super chouette avec quelqu'un d'autre et peut-être qu'il est très aimant avec d'autres gens. Enfin, on n'est pas monolithique, quoi. Personne ne l'est. Personne n'est tout bon ou tout méchant. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai lu cet intitulé, ça m'a vraiment posé question, parce que quand je réfléchis à mes personnages et quand je construis un personnage, ce qui m'intéresse, c'est justement sur son humanité. Il peut faire les pires trucs du monde. S'il n'est pas un tout petit peu humain, le personnage ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je trouve rarement les personnages intéressants quand ils ne sont pas un tout petit peu humains, quand ils n'ont pas un petit peu des failles, quand ils n'ont pas un petit peu des contradictions. donc ouais, moi, c'est vrai que le personnage, l'homme mauvais, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas du tout. Je ne sais pas toi, mais...
Non, je te rejoins sur le fait qu'on aime bien, en tant que lecteur, avoir des personnages avec plusieurs couches, comme on dit, hein, plusieurs layers, disent les Américains, des conflits, et puis on découvre les différents aspects au fur et à mesure. Il y a quand même un champ littéraire, en t'écoutant parler, j'y pensais, où on aime bien avoir des vrais méchants, ce sont les contes. les super-héros qui sont un peu les contes de notre époque, les mythes de manière générale. Hein, et c'est vrai que les Marvel, c'est les mythologies d'aujourd'hui, d'une certaine manière, parce que ça donne une grille de lecture du monde qui est simple. Après, il faut savoir s'en détacher, parce que le réel n'est pas aussi simple, mais au moins, pendant un moment, ça fige les choses, on sait où est le camp du bien, où est le camp du mal. Donc, en tant que lecteur, on peut apprécier quand même le fait d'avoir des vrais méchants. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire une fois encore dans Phobos, ma série précédente, avec le personnage de Serena McBee, qui incarne ce système de manière... peut-être un peu extrême, peut-être même un peu caricatural, mais il y a un côté jouissif à voir ce monde médiatique tellement impalpable, soudain incarné contre un ennemi, une espèce de dragon contre lequel on peut lutter. C'est pas le parti pris que j'ai pris dans Cogito, où effectivement mes personnages, mes protagonistes sont voguent au gré de cette technologie et vont devoir se définir par rapport à elle, mais sans savoir contre quoi lutter. Ça va se définir petit à petit au cours du roman, la menace va prendre une forme plus tangible, mais au départ, c'est vraiment très diffus. Mais une fois encore, je pense que c'est assez symptomatique de notre monde. On est dans un monde plus chaotique qu'il ne l'a jamais été, et notamment du fait de l'accélération technologique, tout simplement parce qu'on ne comprend pas tout ce qui nous entoure. Il y a une complexité telle qu'on utilise nos applications, on utilise tout ce que la technologie nous offre, mais sans comprendre forcément comment elle fonctionne. Donc on n'a pas les outils pour appréhender complètement le réel. La fiction peut nous aider peut-être à mieux se le réapproprier.
Moi, je vais rebondir sur ce que dit Manon, parce que justement, je suis assez en face, c'est-à-dire que les méchants en carton ou les gentils en carton, c'est-à-dire le gentil qui a vraiment toutes les qualités ou la gentille qui a toutes les qualités ou le méchant qui a au contraire tous les défauts, je pense que ça n'a pas grand intérêt. C'est-à-dire que le héros sans faille, en dehors des super-héros et des contes, en effet, ou à l'inverse, le méchant qui est vraiment, je ne sais pas, le Gargamel absolu du roman, bon, je ne suis pas sûr que c'est là qu'il y a un intérêt incroyable. Et je rebondis aussi sur ce que disait Béatrice, parce que je crois qu'il y a deux notions qui sont différentes quand on parle de l'homme, alors méchant ou mauvais, je sais pas comment l'appeler, mais il y a une notion individuelle et une notion collective. Et ça, ce sont deux choses qui sont quand même différentes. C'est-à-dire que la notion individuelle, bon, ok, il y a des gens qui sont sadiques, tout ça, mais on est bien conscient que c'est quand même une minorité, enfin j'espère qu'il n'y en a pas trop dans cette salle, que c'est une minorité de personnes. On croise pas dit sadique absolu, tortionnaire tous les jours, enfin j'espère pour vous. Mais en tant que groupe, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a des logiques de groupe, des courants de groupe, des effets de groupe. Et c'est vrai que quand on regarde... Donc au niveau individuel, je suis complètement en phase en fait avec ce qui a été dit par les différentes personnes. Au niveau collectif, c'est là où je suis un peu plus inquiet, parce que si vous prenez une feuille et que vous tracez des traits verticaux et des traits horizontaux, et qu'en vertical vous mettez les différentes zones du monde, et qu'en horizontal vous mettez les différentes périodes historiques, vous apercevez finalement qu'il n'y a aucun trait aucune ligne, pardon, et aucune colonne où il n'y a pas eu de guerre, en fait. Il n'y a aucun endroit où, en dehors peut-être de l'Antarctique, il n'y a aucun endroit où il n'y a jamais eu de guerre, et il n'y a aucune période où il n'y a jamais eu de guerre. Donc s'il n'y a aucune période où il n'y a jamais eu de guerre, et s'il n'y a aucun endroit où il n'y a jamais eu de guerre, vous pouvez vous dire que la guerre, elle est quand même intrinsèque à l'homme. Sinon, il devrait y avoir plein de périodes et plein d'endroits où il n'y a jamais de guerre. Et c'est vrai des guerres, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire... malheureusement, des massacres. Et c'est vrai que quand on interroge une personne, si je vous demande, ok, qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait, là, en dehors d'assister à cette formidable table ronde, qu'est-ce que vous voulez vraiment, au bout d'un moment, ce qui va sortir, c'est que vous allez me dire, ce que je veux, quelque part, vous allez me dire, ouais, ce que je veux, c'est être heureux, c'est le bonheur. Donc c'est un peu l'aspiration de chacun. Et je pense qu'il y a un décalage incroyable entre les aspirations individuelles qui finalement tournent toujours autour du bonheur. Et les actions collectives, où on se rend bien compte que les actions collectives, que ce soit d'une nation, d'un groupe, d'une tribu, ne vont pas du tout dans le sens des aspirations individuelles des membres de ce groupe ou de cette tribu. Donc il y a une espèce de contradiction. Donc il y a une espèce de contradiction entre, d'un côté, les aspirations individuelles et les comportements individuels, et deux, le comportement de groupe, mais qui finalement se réplique partout et tout le temps. Ça m'interpelle, cette contradiction. Et malheureusement, ça me rend aussi assez négatif, parce que si effectivement les comportements de groupe, quelles que soient les époques et quels que soient les lieux géographiques, induisent des guerres, pour faire simple, intrinsèquement, il n'y a pas de raison que ça change. Je veux dire, il y a aucune, enfin, moi je serais ravi, mais il n'y a aucune raison que ça change. Alors peut-être modulo, en effet, c'est ce que croient certains d'ailleurs, modulo le progrès technologique avec des intelligences artificielles qui pourraient éventuellement mieux régler nos propres problèmes que nous-mêmes. Mais en dehors de cet espoir qui est quand même un petit peu utopique, là-dessus, moi je suis quand même assez pessimiste, non pas sur l'individu en lui-même, mais sur l'aspect de groupe, quoi.
Je crois savoir, j'ai lu ça une fois quelque part, je crois que dans l'histoire de l'humanité, il y a une seule année où il n'y a pas de traces de guerre en Europe. Mais c'est en Europe, ouais. Puis je sais plus quelle année, il faudrait chercher ça. C'est tout à fait ça, effectivement. Alors, en fait, on constate que finalement, la science-fiction parle peu d'hommes mauvais ou de mal absolu. Ce serait plutôt, effectivement, les contes ou le fantastique. Dans le fantastique, on a ou le thriller gore ou ce genre de choses. Finalement, c'est peut-être la science-fiction a plus une notion de attention, voilà ce qui pourrait se passer si, etc. Mais c'est aussi, je pense, effectivement, un regard très éclaircissant sur aujourd'hui, notamment avec toute l'intelligence artificielle d'où nous sommes tous esclaves, je dirais, si je peux. Enfin, alors, quand même, pour essayer encore de rebondir un petit peu sur ce titre, est-ce que dans vos autres récits, vos autres livres que vous avez écrits par le passé, est-ce qu'il y a des méchants, ou est-ce que vous projetez d'écrire un livre en utilisant des méchants dans le futur? Béatrice, vous utilisez des contes, hein, votre matière est...
Oui, or, comme ça. Si, il y a une allusion ici dans Je n'existe plus. Je dirais plutôt que mes sources d'inspiration, c'est la grande science-fiction. Ah oui, hein, j'ai l'âge de mes artères, plus ancienne que les préoccupations de nos jours. Beaucoup Robert Heinlein ou Ray Bradbury, où il n'y a pas de méchants vraiment, où la technologie a fait des bonds de géants. C'est une technologie qui n'est jamais expliquée. Bon voilà, à cette époque, on sait faire ça. On sait voyager dans les étoiles, en deux semaines vous atteignez les confins de l'univers. On sait bien, à l'heure actuelle de nos connaissances scientifiques, les savants vous disent sur tous les tons que c'est totalement impossible. Pas pour les auteurs de science-fiction des années 50-70, on va dire, où tout était possible. Vraiment, c'était l'imagination au pouvoir. Et ce côté-là me plaît bien. Le fait d'utiliser les contes, c'est un petit peu anecdotique, je pense. On peut pas non plus trop raconter à cause de ça, mais j'ai plus d'optimisme, je crois. Je pense à d'autres types de romans. Je pense à, quand tu parlais de coopération ou de non-coopération, je pensais aux idées de Bernard Werber sur Bernard Werber, on en pense qu'on veut, mais pour lui, c'est très important, cette coopération entre espèces qui sont faites pour ne pas se comprendre, et seule la coopération permet d'avancer justement dans la paix individuelle, le bonheur individuel, etc. C'est sûr qu'on pense tous à la même chose. Quel est votre but dans la vie? Être heureux, avec beaucoup de sous, si possible. Bon, très bien, c'est très primaire, c'est des désirs de base. Connaître l'amour, ah oui, connaître l'amour, c'est vachement bien, bon, voilà. Non, mais on pense tous à la même chose. Et qu'est-ce qui nous attend au tournant? Ben, comme vous disiez, monsieur, des types comme Trump qui, par bêtise, vont foutre le feu au monde, quoi. C'est vite fait, hein. Et je crois vraiment de tout cœur que c'est la bêtise qui nous mène au chaos. Une individualité égoïste. Mais bon, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, donc c'est peut-être pas la peine d'insister trop là-dessus.
Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, le mot que vous utilisez, coopération. Oui. Finalement, donc il n'y a pas dans vos œuvres des hommes vraiment mauvais ou des femmes vraiment mauvaises, mais il y a alors la coopération, comment elle se manifeste dans ces différents livres? Quand la Terre commence à... la coopération, comment elle se passe? Est-ce que c'est une solution pour s'en sortir?
Bah, alors, elle se passe pas partout et par tout le monde. y a aussi un peu de chacun pour soi, évidemment, de pillage de magasins. Voilà. Mais la coopération, elle passe par l'humain, elle passe par connecter avec les autres êtres humains. C'est le principe de base de la coopération. Donc elle passe par là. Mais pour revenir à ta question précédente, pardon, hein, je fais des ponts. Moi, je crois que j'en ai que deux des vraiment méchants dans mes romans. Il y en a un dans mon tout premier roman, dans Aussi libre qu'un rêve, qui est un roman de science-fiction aussi. Et où là, quand même, il y a un vrai méchant. Et il y en a un autre dans Les Illusions de Savoir, qui est un roman de fantasy, mais alors là, qui est de l'ordre du méchant, on en parlait à mi-voix tout à l'heure, du méchant psychopathe, de celui qui, de toute façon, ne peut pas connecter avec les autres, qui est de l'ordre du psychopathe sadique. Donc forcément qu'il y a un vrai méchant, pour le coup. Mais j'en ai pas tant que ça. Hein. J'ai vraiment cherché depuis tout à l'heure, et sur 16 romans, ben voilà, il y en a deux.
La coopération dans Cogito.
Alors, je vais pas non plus déflorer le sujet du roman, mais plutôt un sujet à niveau sur l'époque dans laquelle je me situe, donc ce futur proche où l'intelligence artificielle et la robotisation vont envahir toute la société. C'est sûr qu'il va y avoir des bénéficiaires, ceux qui détiennent les robots, qui détiennent ce capital. À partir du moment où le travail ne sera plus le produit d'un capital et d'une force de travail, qui va être la main-d'œuvre humaine, mais du capital uniquement, parce que les robots seront capables de tout faire, il y aura forcément une concentration des richesses de plus en plus forte, qu'on observe déjà aujourd'hui. Hein. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi creusées dans l'histoire du monde qu'aujourd'hui. 1% des plus riches détiennent 50%, autant que 50% des plus pauvres. Et ça va s'accentuer. Et ça sera forcément l'objet d'énormes contestations sociales qui pourront aller avoir des manifestations violentes. Il n'y a aucun moyen d'y échapper, à moins de changer complètement le système. Ça, c'est une évidence. Comment le changer ? Ça, là, c'est ouvert à tous les projets, toutes les interprétations, mais ça passera par une nouvelle forme de coopération qui reste à inventer. C'est pour ça que je disais en introduction, pour moi, les deux énormes défis du XXIe siècle, c'est la planète, l'écologie, notre planète maison dans laquelle on vit d'un côté, et de l'autre côté, cette technologie qui va creuser les inégalités et nous obliger à coopérer comme jamais dans l'histoire de l'humanité, parce que ça sera ça ou l'extinction.
Oui, il est plus près. Oui. Sur cet aspect de coopération, il y a une. Alors, ça n'a rien à voir avec la science-fiction, pour le coup, puisque c'est plutôt quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, mais il y a une expérience qui s'est faite involontairement sur une île qui est au sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est bien, on retombe sur l'île d'Auckland, qui est, je crois, 300 km au sud de la Nouvelle-Zélande, pas la ville d'Auckland, hein, l'île d'Auckland. Où en fait il y a eu deux naufrages la même année sur la même île, mais c'est une île qui est quand même suffisamment grande pour que les deux bateaux ne sachent pas qu'ils avaient fait naufrage en même temps. Donc c'est une vraie histoire, hein, ce que je vous raconte, c'est pas du tout un sujet fictif. Donc on a deux bateaux qui font naufrage à peu près au même moment. Sur le premier bateau, je crois qu'il y a 19 membres d'équipage qui survivent d'un côté de l'île, et sur l'autre bateau il y a 5 membres d'équipage qui survivent. Et en fait, le comportement de ces micro-sociétés sur cette île en attendant les secours a été complètement différent. C'est-à-dire les premiers naufragés, les 19, étaient dirigés par un capitaine extrêmement égoïste qui partait du principe que chacun se débrouillait. Et en fait, ils en ont récupéré 3 à la fin parce que c'était chacun pour soi, chacun pour sa peau. Ils ont même eu, il y a eu des actes de cannibalisme, ainsi de suite. Alors que sur l'autre versant de l'île, les cinq qui ont été naufragés ont été tous les cinq secourus au bout de je sais pas combien de mois, voilà. Mais ils avaient mis en place une espèce de micro. Alors à cinq, c'est une micro société, une nano société si vous voulez, dans laquelle la coopération était très présente et dans laquelle justement il y avait même une espèce de transmission du savoir entre ces cinq membres parce que ces cinq personnes avaient des qualités, des expériences, des passés différents. Donc oui, en effet, la collaboration, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui a priori est une bonne chose et qui peut nous mener vers ça. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure on est câblé naturellement pour ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on agit d'une certaine façon, on peut agir de cette façon-là, soit parce qu'on est, ça c'est facile, parce qu'on est câblé naturellement pour le faire, ou on peut agir de cette façon-là, non pas parce qu'on est câblé pour le faire, mais que la réflexion nous amène à nous rendre compte qu'en procédant de cette manière-là, c'est bénéfique à tout le monde. Exemple, la démocratie. On n'est pas naturellement câblé pour la démocratie, d'un point de vue... Mais n'empêche qu'on se rend compte que la plupart d'entre nous, on préfère vivre dans un régime démocratique. Parce qu'il y a une réflexion derrière, des sujets de société, ainsi de suite. Et donc, ce sujet de la coopération, je pense qu'on va avoir une lutte... On est quand même câblé pour la coopération, plus que d'autres espèces. Parce que enfin, l'homme a vécu quand même dans des sociétés et ça a fonctionné. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on ne va pas, dans l'avenir, avoir une lutte quelque part entre nos penchants naturels qui viennent des milliers d'années d'évolution et d'autre part une réflexion. Mais une réflexion qui peut être... Le problème de la réflexion, c'est que c'est un côté extrêmement fragile, en fait. Comme tu prenais l'exemple de Trump, bon, il y a 150 000 exemples. Hein. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on n'est pas dans le câblé, où on n'est pas dans l'inné, ben on prend le risque le risque de l'éphémère, en fait. Et c'est... Voilà.
Il y avait une question. Vous avez encore une question ?
Il y a deux réponses. C'est-à-dire que, juste sur cette question-là, c'est évidemment plus facile de vous mettre d'accord quand vous êtes 3 que quand vous êtes 17. Si là, on restait ensemble et qu'on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce soir et que vous êtes à 3 personnes, vous allez vous mettre d'accord plus facilement que si vous êtes 37. Vous allez devoir mettre en place un système, peut-être un vote, peut-être, je ne sais pas, quelque chose. Donc oui, c'est plus facile de se mettre d'accord quand on est moins nombreux, mais d'un autre côté... Quand on est dans une situation vitale, là, d'urgence vitale, c'est plus simple de survivre quand on est plus nombreux que quand on est moins nombreux. Parce qu'on peut bénéficier des talents des différentes personnes présentes. Et là, c'est plus facile quand on a 19 talents que quand on en a 5, primo. Et deuxio, on peut aussi avoir une certaine répartition des tâches qui permet de se dire, OK, vous allez chercher de l'eau, nous, on va chercher du poisson, nous, on va chercher du bois pour le feu, ainsi de suite. Ce qui devient beaucoup plus compliqué quand le groupe est limité. Donc, globalement, je pense que l'effet taille, il est plutôt en faveur du groupe où ils étaient plus nombreux que du groupe où ils étaient moins nombreux.
Merci. J'ai plus de questions. Est-ce que vous en auriez encore une ou... Oui, tout au fond, oui, très bien.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une pureté d'image, qu'il y a des gens qui naissent naturellement mauvais
pour grande question. Est-ce qu'il y a des gens qui naissent naturellement bons et d'autres naturellement mauvais? Qui a la réponse?
Je pense que oui, on a un peu effleuré déjà la question en disant que la plupart d'entre nous, on a plusieurs aspects, plusieurs facettes, et on réagit aussi en fonction des situations. On peut être mauvais dans certaines situations, bon dans d'autres. C'est la richesse de l'être humain et sa complexité. Un être qui serait entièrement mauvais dès la naissance, ça relèverait plutôt de la pathologie et de la psychopathologie en l'occurrence. Et encore, est-ce que ça existe vraiment, un psychopathe absolu? C'est aussi un sujet de débat. Voilà ce que je pense en tout cas.
Pas mieux.
Les enfants naissent avec toutes les virtualités et aucune n'est réalisée. Il faut l'éducation pour qu'ils deviennent autre chose qu'un bébé, on va dire. Donc je pense que c'est l'environnement qui fait d'eux des gens plutôt comme ci ou plutôt comme ça, plutôt gentils, plutôt psychopathes, plutôt héroïques, plutôt courageux, plutôt curieux de la vie, etc. Je pense pas qu'il y ait une prédestination de la bonté ou de la méchanceté ou de la psychopathie. Hein.
Il y a l'inné, il y a l'acquis, en fait.
Sans doute, oui. Ouais. Sans doute.
On n'aura pas la réponse. Oui.
Oui, mais là encore, ce n'est pas de naissance.
Je ne sais pas.
Ouais.
Enfin voilà, faudrait poser la question à un psychiatre peut-être. Là, bon, en tant qu'écrivain, on n'a pas forcément les armes pour répondre à ce genre de questions. Est-ce que ça, oui, bien sûr, il y a des gens qui aiment faire le mal autour d'eux et qui prennent du plaisir, mais effectivement, là encore, ça relève de la psychiatrie dans ce cas-là, en général. Et ça peut être des personnages intéressants à explorer, d'ailleurs.
Moi, je dirais que les personnages malveillants, s'ils sont malveillants, c'est qu'ils ont une raison. Et je pense, par exemple, à... J'arrive jamais à me souvenir du titre. Je disparais, je suis invisible, je n'existe plus. Où il y a une méchante, pas très méchante, qui est malveillante, on va dire, mais elle a une raison d'être malveillante, n'est-ce pas ?
Ça peut être la jalousie, ça peut être... oui, enfin, des choses comme ça. Vous pouvez être jaloux, à juste titre, de quelqu'un qui réussit mieux, qui est plus... mieux engagé dans la vie, etc. Ça se comprend aussi, mais... Pour moi, vraiment, 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 la malveillance trouve son origine dans la bêtise. Et alors là, il y aurait autre chose à dire, peut-être, ou à chercher en tout cas. Mais je crois que le grand malheur du monde vient de ça, de gens qui restent au niveau le plus ras des pâquerettes. Vraiment, bon, on va pas bien loin en disant ça, je suis bien d'accord, mais...
De la même manière, la méchante dans Phobos, elle a des raisons d'être malveillante. C'est son ambition qu'il a.
Elle a une ambition dévorante et qu'elle va même justifier par un projet de société qu'on découvrira au fur et à mesure. Donc on est dans une mégalomanie qui peut aussi. Alors pour ceux qui ont. Je ne veux pas spoiler Game of Thrones pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, mais on est un peu dans la même configuration, j'en dis pas plus.
Bien, je crois que nous allons terminer le débat ici, l'heure a tourné. Donc on constate finalement, dans le futur, il y aura peut-être des hommes mauvais, mais on ne sait pas vraiment. On espère qu'il n'y en aura pas trop et que la coopération soit au centre du progrès humain. Merci beaucoup, merci à nos auteurs d'avoir participé à ce débat. Et bonne suite d'Imaginal.